Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y en a un qui est officiellement déclaré, c'est Xavier Bertrand. Il y en a d'autres qui y pensent vraiment fort mais qui ne se lancent pas encore. D'autres présidents de région comme Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez, mais aussi le chef de la majorité sénatoriale Bruno Retailleau. Dernier en date à prendre la température, Michel Barnier, ancien négociateur européen pour le Brexit. On en oublie sûrement qu'il nous pardonne, mais cela fait potentiellement beaucoup de monde au portillon pour 2022, alors même que la droite parlementaire a manifestement parfois des difficultés à se positionner pour les régionales qui arrivent au mois de juin. Embouteillage à droite, comment choisir un chef de file? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct et en ligne avec nous aujourd'hui. Louis Salter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique à l'hebdomadaire Marianne, auteur du livre Marion Maréchal, Le fantasme de la droite, paru en septembre dernier aux éditions du Rocher. Et également Benjamin Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Assas. Et enfin Jean Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à l'université d'Orléans, président du comité d'histoire parlementaire, auteur du livre « Les perdants magnifiques de 1958 à nos jours » et c'est paru en octobre dernier aux éditions Talendier. Avant de se projeter sur les échéances de l'année prochaine, on va quand même s'arrêter sur ce qu'il se passe depuis plusieurs jours entre la majorité présidentielle et les Républicains. D'abord un désistement, puis un rétropédalage et enfin une alliance qui ne dit pas son nom en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut être un spécialiste hein, un peu pour suivre, et c'est pour ça que je m'adresse à vous, Louis Osalter. On en est où là?
Alors, effectivement, il faut le suivre heure par heure, minute par minute. Donc là, il y a une sorte d'aller-retour, puisque après les petits codrames de la semaine dernière, qui avait vu le bureau politique des Républicains, ou plutôt la commission d'investiture, s'opposer à une alliance de Renaud Muselier avec La République En Marche, il semblerait qu'après avoir dit oui, Renaud Muselier place quand même des macronistes sur sa liste, avec la condition qu'il ne soit pas parlementaire ni ministre. Donc voilà, c'est une manière de rattacher de façon cachée ce qu'il avait tenté d'accrocher de façon plus publique. La question qui est posée derrière, évidemment, c'est le dynamitage du parti, le tiraillement du parti Les Républicains sous les coups de boutoir de Macron, puisque cette opération politicienne n'a qu'un seul but, c'est d'écarteler un peu plus ce parti, dont certains cadres, je pense à Christian Estrosi, sont très tentés par le ralliement à La République En Marche. Lui l'a formulé clairement. Et d'autres veulent absolument préserver un parti qui soit en mesure de présenter un candidat à l'élection présidentielle et un candidat qui se qualifie au second tour, ce qui n'est pas du tout le cas dans les sondages pour l'instant. J'ajoute, pour terminer sur l'épisode de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que un coup d'œil sur les deux récents sondages qui ont été publiés et qui donnent le candidat RN Thierry Mariani vainqueur dans tous les cas de figure, en sûrement remué un peu Renaud Muselier, le président de région sortant, qui cherche à sauver sa peau, qui cherche à sauver sa place de président de région en tentant de s'adjoindre à un réservoir de voix macroniste, même s'il est, je pense qu'il perdra, il risque de perdre d'un côté, c'est-à-dire du côté RN, ce qu'il tente de gagner côté macroniste.
Eh bien justement, Benjamin Morel, ce qui gêne le plus le parti Les Républicains, c'est le positionnement vis-à-vis de la majorité ou vis-à-vis du Front Rassemblement National, pardon.
C'est pour l'instant plutôt le positionnement par rapport à la majorité. Si vous voulez, il faut comprendre que la décentralisation d'un côté, puis ensuite la fin du cumul des mandats, ont changé profondément le rapport entre les élus locaux et les directions nationales. Les directions nationales n'ont pas toujours le même intérêt que les élus locaux. Et vous avez des élus qui, comme ils ne cumulent plus, eh ben, ont une vision nationale qui apparaît moins importante pour eux qu'une vision locale. Et en la matière, vous avez un petit peu un cas d'école, c'est-à-dire que La République En Marche, rejoint ce qui a été dit, a une stratégie qui est une stratégie de division de la droite, de partition de la droite entre elle et le Rassemblement National. C'est ce qu'on a vu notamment d'un point de vue électoral aux élections européennes. Cette stratégie-là qui permet de neutraliser un espace politique de centre-droit qui a une identité politique et qui peut éventuellement poser un problème à Emmanuel Macron en 2022, elle implique de fissurer le parti Les Républicains. Or, en PACA, ce qui est intéressant, c'est que l'électorat LR est un électorat qui est plutôt âgé, l'électorat LR qui reste, si vous voulez, et c'est un électorat qui n'est pas forcément, pour une grande partie d'entre lui, RN compatible. n'est pas le cas forcément dans d'autres régions de France. Et donc, à partir de là, pour Renaud Muselier, l'idée d'une alliance avec La République En Marche n'est pas absurde d'un point de vue électoral. Mais on est sous la Ve République, et sous la Ve République, pour une direction nationale, eh bien, vous avez une majorité et vous avez une opposition. Et le principe de l'alternance, qui est inscrit dans nos gènes institutionnels et dans la manière dont les Français apprécient et appréhendent le jeu politique, implique que si vous voulez demain succéder à la majorité, vous devez incarner l'opposition et vous devez incarner une opposition ferme à la présente majorité et donc refuser tout compromis, fût-il local. Entre la logique locale et la logique nationale, aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que la concorde est difficile.
Jean Garrigue, je ne sais pas si l'on peut dire que La République En Marche illustre une forme de droite modérée. Je pense d'ailleurs qu'il ne serait pas très content que je dise ça, donc c'est peut-être aussi un peu pour ça que je le dis, par mauvais esprit. Mais ces tiraillements entre plusieurs forces de la droite, de l'échiquier politique, c'est loin d'être nouveau, non ? Enfin, l'historien que vous êtes va nous l'expliquer.
C'est toute l'histoire des droites. Je rappelle la célèbre tripartition de l'historien René Raymond entre droite légitimiste, orléaniste, bonapartiste. Et on pourrait, dans les 30 dernières années, augmenter encore cette partition et y rajouter une droite populiste qui aujourd'hui est très largement séduite par le Rassemblement national, mais pas simplement, parce qu'on voit très bien qu'il y a dans la droite modérée un certain nombre de leaders, des Laurent Wauquiez et d'autres, qui ont été manifestement très attirés par ces sirènes. Mais pour revenir à ce qui s'est passé en région PACA, qui a été très bien analysé par les deux qui m'ont précédé, la tentative téléguidée par en haut, par Matignon et même par l'Élysée, d'essayer de disloquer la droite en PACA, comme ça a été plutôt d'ailleurs bien réussi depuis quelques années à l'échelle nationale, s'est heurté à des réalités aussi qui sont des réalités régionales, qui sont des réalités locales. Et ça a été mené d'une façon extrêmement maladroite. Il aurait été beaucoup plus efficace pour les macronistes de régler les choses à l'échelon local, comme d'ailleurs le souhaitait, je le suppose, Renaud Muselier, et d'intégrer, comme ça va peut-être être le cas, on ne sait toujours pas, des représentants de la République En Marche dans sa liste. Encore faut-il préciser que si tel avait été le cas, je ne suis pas sûr que le gain électoral aurait été garanti, et au contraire, je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant sur le plan stratégique d'avoir une liste, celle de Renaud Muselier, celle de La République En Marche, et éventuellement, au deuxième tour, de contacter des alliances face à la liste de Thierry Mariani.
C'est peut-être pas fini d'ailleurs, hein. On attend la réaction de Sophie Cluzel.
Rien n'est encore joué. Mais une dernière chose, c'est qu'il faut se souvenir qu'en 2015, Marion Maréchal, qui était la candidate de ce qui s'appelle Front National à l'époque, était à un score de 40%, qui était encore au-dessus de celui qu'on promet à Thierry Mariani, et que finalement, la victoire de la liste, qui était à l'époque conduite par Christian Estrosi, n'a pu être réalisée que grâce au désistement de la liste de gauche. Et donc, ce qui pourrait se passer aussi lors de cette élection, c'est que la liste de gauche puisse tenir entre ses mains le sort de cette élection. Mais on sait que là aussi, bon, même si ça n'est pas notre sujet, mais la liste de gauche, cette fois, il n'est pas du tout sûr qu'elle choisisse entre la liste Muselier et la liste de Thierry Mariani. Donc on voit que les équations régionales ne sont pas du tout celles de la situation nationale.
Oui, Louis Osalter, le contexte régional, et là je ne me cantonne pas à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais j'élargis un peu toutes les régions, hein, notamment Hauts-de-France. Est-ce que ce contexte régional pèse sur la préparation de la présidentielle ? Est-ce qu'on peut dire que finalement, au fond, puisqu'on est à moins d'un an du deuxième tour de la présidentielle maintenant, là, est-ce qu'on peut dire au fond que c'est ce que les protagonistes ont tous en tête ?
Oui, évidemment. Alors, souvent, des commentateurs disent que les régionales sont la répétition générale de la présidentielle. Je pense que c'est faux du point de vue électoral, parce que la participation ne sera pas du tout la même. L'intérêt des électeurs, l'intérêt de l'opinion publique n'est pas du tout le même. Là, nous en parlons, mais la plupart des gens se demandent plutôt quand est-ce qu'ils vont être vaccinés et quand est-ce qu'on va sortir de la crise sanitaire, que leur vote aux élections régionales a supposé qu'ils aillent voter. Donc, ce n'est pas une répétition générale pour les électeurs. En revanche, pour les appareils politiques et toutes les manigances et opérations qui s'opèrent, c'est évidemment une préfiguration, ou en tout cas, c'est une forme de qualification, parce que tout le bras de fer qui se joue est entre les présidentiables qui sont présidents de région et qui veulent s'en servir comme d'un tremplin vers l'Élysée, et un Emmanuel Macron qui, depuis l'Élysée, essaye d'envoyer ses torpilles pour faire trébucher ses présidents. Alors là, ce n'est pas le cas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le sujet tombe plutôt autour de la puissance du Rassemblement national dans cette région, historiquement, et dans les intentions de vote en l'occurrence. Mais des présidentiables, que ce soit Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse en Île-de-France, voire Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui pour l'instant, dans les sondages, sont tous plus ou moins donnés gagnants, réélus dans leur région respective. Donc Emmanuel Macron, et on a vu cette semaine le parachutage de plusieurs ministres, dont Dupond-Moretti, sur la liste La République en marche dans les Hauts-de-France, pour tenter d'aller affaiblir Xavier Bertrand, entre autres objectifs. Emmanuel Macron tente de repousser ce que seront des assauts de présidents de région de droite qui auront été confortés par leur réélection. Après, moi, comme je vous l'ai dit, je déconnecte bien l'enjeu des élections régionales de celui de la présidentielle, parce que je pense qu'on ne parle pas du même électorat, on ne parle pas des mêmes enjeux politiques. D'ailleurs, on ne parle pas du tout dans ces affaires des compétences de la région, mais qui sont très minimes par rapport à celles d'un chef de l'État. On parle simplement de protagonistes qui risquent tout à fait d'être les mêmes, en tout cas pour certains d'entre eux. Donc pas une répétition générale, mais des états-majors qui connectent les deux très fortement, oui, évidemment.
On va se concentrer maintenant sur l'enjeu national, si vous voulez bien, Benjamin Morel. La situation est un peu particulière. À droite, il n'y a qu'un candidat déclaré, hein, mais nombreux sont ceux qui pensent à voix plus ou moins haute, on les a cités. Quand est-ce que tout cela peut se décanter? Il faut attendre la fin des élections régionales, voire la fin de l'été, la rentrée, la sortie éventuelle de la crise sanitaire?
C'est extrêmement complexe, tout bêtement, parce que jadis, vous aviez une formation politique, à droite comme à gauche d'ailleurs, mais singulièrement à droite, qui, grosso modo, gérait et régulait un espace politique. Cet espace politique, celui de la droite républicaine qui couvrait le centre-droit jusqu'à la droite de la droite, au-delà du, sans compter le RN, eh bien, permettait d'instruire un instrument de régulation pour que, au bout du compte, une candidature soit désignée et que cette candidature soit acceptée par tous. Or, aujourd'hui, cette formation politique, qui était jadis l'UMP, ensuite LR, n'a plus cette capacité-là. Vous voyez que dans les présidentiables potentiels, vous aviez Bertrand à fonder sa propre structure, Valérie Pécresse à fonder sa propre structure, Laurent Wauquiez est quelque peu en marge, Bruno Retailleau tient notamment parce qu'il tient le groupe LR au Sénat. Bref, vous avez une multipolarisation de la droite et vous n'avez aucune structure de filtre légitime pour désigner un candidat qui sera accepté par tous. LR a dans ses statuts les primaires, déjà enlevé les primaires des statuts ne fait pas l'unanimité, donc si jamais il n'y a pas d'unanimité là-dessus, il y aura des primaires. Or, vous avez déjà des candidats déclarés à l'extérieur qui jugent que leur primaire à eux, c'est la position de Xavier Bertrand et puis même un peu de Laurent Wauquiez, même si aujourd'hui ses intentions sont moins évidentes. Eh bien, ça va être les régionales. Donc, les régionales, si jamais elles doivent conduire à la défaite d'un certain nombre de présidentiables, pourront permettre de dégager le paysage. Si jamais elles ne conduisent pas à cette défaite-là, eh bien, il faudra qu'un accord soit trouvé entre protagonistes. Cet accord, il ne pourra probablement pas subvenir réellement et certainement avant la fin de l'été ou le début d'automne. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème pour l'électorat, s'il survient. C'est un vrai problème pour l'électorat de droite, parce qu'on parle d'un électorat qui est un électorat âgé, qui a plutôt une forte identité politique et qui, grosso modo, est capable de voter à droite s'il croit en une victoire de la droite. Mais s'il ne croit pas en une victoire de la droite, eh bien, vous avez une partie de cet électorat qui risque de voter RN par antimacronisme, ou une partie de la droite qui risque de voter Macron par peur du Rassemblement national. Mmh. Or, pour arriver à donner de l'espoir à cet électorat-là, qui est tout de même marqué par le principe du chef, il lui faut justement un chef qui est consensuel. Il faut que ce chef-là soit reconnu par tous les barons, à ce stade-là, on en est loin.
Oui, Jean Garrigue, la désignation d'un candidat unique à droite, ça a toujours été un problème. Hein. Problème que la primaire n'a pas résolu, ça en a même créé d'autres, des problèmes.
Oui, car la primaire, mais ça avait été le cas aussi à gauche, la primaire a concentré les votes sur ce qu'on pourrait appeler le noyau dur de l'électorat. C'est-à-dire ceux qui vous permettent éventuellement de gagner le premier tour, mais qui, en général, ne vous permettent pas d'aller ou de gagner le second tour d'une élection présidentielle. On l'avait vu avec François Fillon. Alors, il est arrivé d'autres choses, d'autres événements à François Fillon qui l'ont empêché d'être au second tour. Mais de toute manière, il aurait été très compliqué pour François Fillon, choisi comme ça par la primaire, il aurait été très compliqué de séduire au-delà de ses propres forces et d'aller séduire ceux qui se reconnaissaient plutôt en Alain Juppé ou en Nicolas Sarkozy. L'histoire de la droite sous la Ve République ne s'écrit qu'à travers un chef charismatique, plus ou moins charismatique, qui va essayer soit de prendre l'avantage au cas où la droite soit divisée en deux formations, ça a été le cas dans les années 70-80, où s'opposaient, pour simplifier, le RPR de Jacques Chirac et l'UDF de Giscard. Quand Giscard était le plus fort, il a réussi à être président de la République, puis c'est Jacques Chirac qui a pris le leadership de la droite, et à partir de Jacques Chirac, il a su constituer des formations d'alliance, ça s'appelait l'UMP, et il a su constituer à travers cette UMP, construire son leadership et devenir président de la République. Et Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a voulu devenir à son tour président de la République, s'est emparé de l'UMP en 2004. Et donc, il avait une formation relativement, je dis bien relativement, mais relativement homogène et unie derrière lui. Et vous ne pouvez pas gagner une élection si vous ne vous appuyez pas sur une fraction, une partie de l'électorat, une partie non négligeable d'ailleurs, qui est homogène et qui est unie. Et ce qui manque aujourd'hui, évidemment, c'est un leader à la droite qui s'est toujours construite derrière ce leader. Alors, le problème, et ça vient d'être évoqué d'ailleurs, mais le problème, c'est qu'on voit bien que le potentiel leader, je dirais électoral, pour cette élection présidentielle, ce serait Xavier Bertrand. Or, Xavier Bertrand fait justement partie de ces figures de la droite qui ont quitté le parti, qui ont quitté les Républicains. Il y a donc un paradoxe. Alors, on peut aujourd'hui se considérer que le désaveu des partis politiques pourrait lui permettre de réaliser une union, une unité, un rassemblement à droite, même hors des Républicains, mais ça reste quand même très problématique parce que les Républicains, c'est aussi une force très implantée dans les territoires, dans les communes de France, dans les régions, on va le voir aussi. Donc ça s'annonce quand même très 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 compliqué. Cette absence de leadership est un handicap terrible pour la droite française. Alors la victoire au régional, elle peut permettre d'écrémer, d'éliminer ceux qui ne réussiront pas, mais en aucun cas elle ne pourra faire émerger un leader.
On va rester sur le casting, si vous le voulez bien, Louis Osalter. Xavier Bertrand est donc le seul à s'être déclaré très tôt, avoir accéléré. Il veut s'imposer, devenir celui qui se dégage, manifestement. Et est-ce que c'est une bonne solution de se dire qu'on va y arriver en partant très tôt, avant les autres ?
Pas forcément, parce que les élections se jouent de plus en plus tard, les électeurs se décident de plus en plus tard, parfois dans l'isoloir, tous les sondeurs vous le diront. En revanche, ce qui est important, c'est pas forcément de convaincre un an avant, mais de s'installer dans le paysage un an avant. Et le calcul de Xavier Bertrand, c'est que les Français, de droite en particulier, n'aient aucun doute sur sa volonté présidentielle. Donc il a annoncé 5 ou 10 fois qu'il était candidat, qu'il y réfléchissait, que c'était sa volonté, qu'il irait jusqu'au bout. Donc ça, cette idée-là est installée. Il va tenter de se servir d'une éventuelle réélection dans les Hauts-de-France comme d'une espèce de transformation, d'une confirmation. Donc l'important, c'est d'installer l'idée d'une détermination, d'une volonté. Ça, c'est un passage classique. Après, le problème, c'est que Xavier Bertrand, s'il ne décolle pas plus que cela dans les sondages, s'il ne parvient pas dans les sondages à perturber le duel Macron-Le Pen qui est largement installé en intention de vote, eh bien, il sera rattrapé par le piège du mode de désignation. C'est-à-dire que à l'automne, des concurrents comme Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, voire Laurent Wauquiez viendront lui dire « Dis donc, bonhomme, attention, tu n'es pas le seul prétendant à droite, il faudrait qu'on discute des modalités pour désigner un seul d'entre nous et éviter d'aller tous au casse-pipe. » Et là, l'électorat de droite qui, comme ça a été dit, veut gagner, c'est-à-dire a une volonté cette fois d'avoir un champion qui puisse passer la barrière du premier tour et ensuite accéder à l'Élysée, fera évidemment un procès à celui qui sera le facteur de division. Or, à mon avis, ce piège risque de se refermer parce que la stratégie qui est actée pour l'instant par le parti présidé par Christian Jacob, c'est on verra plus tard, laissons passer les régionales, on verra bien en temps utile s'il faudra organiser un mode de départage, comme on dit, autrement dit une primaire, pour savoir qui est le meilleur candidat. Mais la dernière fois, avant l'élection présidentielle de 2017, la droite avait mis plus d'un an à organiser sa primaire pour que toutes les modalités soient finement fixées, et ce qui avait permis d'ailleurs le bon déroulement et le succès de cette primaire.
Et là on est un peu en retard. On est un petit peu en retard.
Exactement, et donc le piège risque de se refermer sur la droite à l'automne.
Ouais, Benjamin Morel, tous les sondages depuis 2017 annoncent avec une grande constance, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui dit le contraire, un duel Macron-Le Pen. Mais en même temps, il y a toujours des surprises dans les élections présidentielles. C'est donc intéressant d'être en embuscade, je dirais pas le troisième homme ou la troisième femme, cette position, puisqu'on nous dit que parfois les gens ne veulent pas de ce duel Macron-Le Pen, cette position en embuscade, elle est intéressante ?
Oui, parce que 2022, à ce stade-là, ça demeure de l'astrologie. Hein. Les présidents élu un an avant par les sondages, il s'appelle pas François Fillon, hein, il s'appelle à cette époque Alain Juppé, il s'appelle Dominique Strauss-Kahn, il s'appelle Ségolène Royal, il s'appelle Édouard Balladur. Bref, on est encore très très loin d'élections présidentielles, et à ce stade-là, il peut encore arriver beaucoup beaucoup de choses comme l'ont montré les dernières élections présidentielles. Donc il faut justement arriver à se positionner comme étant un troisième homme. D'autant que vous avez un électorat qui est un électorat relativement fort, fidèle, figé, qui est celui de Marine Le Pen. Sauf gros accident industriel, on a une vraie constance dans le choix de cet électorat-là. L'électorat d'Emmanuel Macron, en revanche, c'est un électorat qui est plus fluide. Hein. Il a beaucoup bougé durant ce quinquennat. Ce n'est pas les mêmes électeurs qui, aujourd'hui, disent qu'ils vont voter Emmanuel Macron, forcément, que ceux qui ont voté pour lui en 2017. Cette fluidité dans l'électorat d'Emmanuel Macron conduit aujourd'hui à interroger sur la possibilité d'un candidat de droite de capter une partie de cet électorat, d'aller le chercher avec, encore une fois, il ne faut jamais l'oublier, un électorat qui est un électorat plutôt âgé, qui a voté Sarkozy, qui a voté Chirac, qui a voté VGE, qui parfois même avant a voté De Gaulle ou Pompidou, et qui donc a l'habitude de voter à droite. Et dès le moment où il croit en une victoire, il peut tout à fait revenir sur un vote de droite par habitude, etc. etc. Donc ça, c'est un point important. Par ailleurs, on est en crise. Et ce qui est intéressant quand on prenait les enquêtes d'opinion, c'est que vous voyez que, comme dans toute crise, les valeurs de l'électorat ont profondément bougé. Mais le fait que les valeurs de l'électorat aient profondément bougé, eh bien, ne se traduit pas encore en chocs électoraux et en modification des intentions de vote. Généralement, dans les crises, ça arrive, mais ça arrive après la crise ou un moment de repolitisation de l'électorat. C'est en train d'arriver en Allemagne. Ça va sans doute nous arriver demain à nous.
Jean Garrigue, on l'a dit au cours de cette émission, à droite, il y a évidemment une culture du chef, et donc il n'y a pas de candidat évident, manifestement. Est-ce que le Parti des Républicains a vécu ? À quoi il sert dans ces circonstances ?
Non, ce serait trop simple de se dire que le parti a vécu. Moi, je me refuse toujours à sonner le glas des partis, que ce soit le Parti socialiste ou le Parti républicain, parce que, je le répète, les élections municipales nous ont montré à quel point des enracinements locaux, qui s'étaient manifestés aussi d'ailleurs au moment des élections sénatoriales, notamment pour la droite, pouvaient être le socle de reconquête éventuelle. Le problème, mais ça a été dit, c'est qu'il y a un espace politique qui est quand même pris en tenaille par d'un côté le Rassemblement national, avec effectivement du côté Rassemblement national un électorat relativement stable. Et c'est vrai, une plus grande fluidité de la part de l'électorat d'Emmanuel Macron, qui explique pourquoi de plus en plus Emmanuel Macron a essayé d'infléchir son discours vers le centre-droit, sinon vers la droite, qui explique pourquoi les thèmes sécuritaires, on le voit depuis quelques semaines, arrivent en force. Alors ça a été aussi un travail mené par Xavier Bertrand pour dépasser sur sa droite Emmanuel Macron. Mais on voit très bien que le régalien est revenu en force du côté de Macron et que c'est une tentative de capter une partie de cet électorat de droite très clairement en vue de l'élection présidentielle. Mais au-delà même de l'absence de leadership, il y a un problème de renouvellement idéologique qu'a rencontré la gauche elle aussi. Il y a un problème incontestablement. Ça, on l'avait très bien vu au moment des élections européennes avec la candidature de François-Xavier Bellamy, enfin le leadership de Bellamy. On se demandait véritablement s'il y avait aujourd'hui enfin une identité de la droite républicaine. Oui. Cette identité, elle est en train de se forger à travers ce thème de la sécurité, mais là aussi, on voit très bien se refermer la tenaille. D'un côté, le Rassemblement national, qui est assez clair au fond sur ses positions, même si il n'est pas toujours clair dans ses votes au Parlement. Et puis de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui est en quête d'une nouvelle légitimité sur ces questions régaliennes. Donc voilà, on a à la fois un manque de leader, un manque de leadership, mais on a aussi un manque de renouvellement, de rénovation sur le plan des idées. Et ça peut être aussi un handicap pour la droite.
Louis Osalter, parfois les choses viennent de là où on ne les attendait pas. Et depuis quelques jours, Michel Barnier prend la température et il teste le marché, comme on dit chez les sportifs américains. Comment il se positionne, Michel Barnier ?
Il se positionne en vieux sage expérimenté, c'est-à-dire que dans un pays où il y a une aspiration qui est agitée par des crises, évidemment, toutes les crises qu'on connaît, et où il y a une certaine aspiration à l'ordre, à une forme d'autorité et puis à un apaisement aussi après un quinquennat Macron très très agité dans tous les sens. Michel Barnier est mis sur sa longue expérience politique à tous les échelons, que ça part du Conseil général de la Savoie jusqu'à la négociation du Brexit au niveau européen. Il mise là-dessus pour se positionner. Après tout, pourquoi pas ? Il a pas des sondages mérifiques, mais à ce stade, rien n'est joué. Et l'enjeu, c'est d'installer une candidature. Or, la droite est dans un état tellement chaotique que, après tout, beaucoup tentent leur chance, même s'ils ne sont pas crédités d'énormément d'intentions de vote. Et Michel Barnier entre par cette porte-là en se disant que, voilà, tout compte fait, pourquoi pas y aller aussi. Mais au-delà de ce casting des personnalités, et il y en aura peut-être d'autres qui débarqueront à leur tour sur scène, il y a aussi le sujet des idées. C'est vrai que ce que la droite paye aussi avec les divisions auxquelles on a assisté, ce sont des sujets qui ne sont pas résolus. À mon avis, le premier d'entre eux, c'est le rapport à l'Europe, le rapport à la mondialisation. C'est-à-dire, est-ce que la droite conserve une sorte d'ADN d'ouverture libérale à la mondialisation et de soutien à l'Union européenne, ou est-ce qu'elle elle tire quelque part des leçons de la crise qui a montré toutes les limites et que même Emmanuel Macron lui-même avait souligné alors que c'était plutôt dans son ADN, et est-ce qu'elle clarifie dans un sens de souverainiste, j'emploie ce mot-là alors qu'il est connoté, mais en tout cas dans un sens de plus critique à l'égard de la mondialisation, de ses conséquences, du rapport à l'Europe. Tout ça, on a vu qu'en arrière-plan de ces bisbilles à droite, c'est quand même ce rapport idéologique-là qui est très travaillé. Et c'est aussi sur cette ligne de clivage que s'est installé le match entre Macron et Le Pen, et que des électeurs de droite se sont dit, là, il y a un choix clair. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est un miroir inversé, c'est un duel qui est ce qu'il est, qui est souvent rejeté, mais qui a le mérite d'une certaine cohérence, alors que la droite a perdu en fait de sa cohérence sur certains de ces sujets et que les électeurs et parfois les élus même n'arrivent plus à retrouver leur petit lorsqu'on va sur ce terrain des idées.
Merci Louis Osalter. Salter. Merci également à nos autres interlocuteurs, Benjamin Morel et Jean Garrigue, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Nicolas Benita, assisté d'Adrien Toureau. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet RFI.fr. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Restez avec nous. Prenez soin de vous et des autres. Et bonjour chez vous. Du 19 au 28 août 2020.